Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie hier sind, bitte aus.
France Inter, le 18-20.
La crypto-monnaie, les bitcoins et tous les autres comme remède à la crise, avec des points d'interrogation quand même. Mais le fait est que le Venezuela a lancé le pétro en 2018 déjà, le Salvador a fait du bitcoin sa monnaie légale, le Liban, devant une livre qui ne vaut plus rien, s'est mis à la monnaie virtuelle aussi. Ça mérite qu'on regarde ça de plus près avec le grand invité d'Un jour dans le monde, et c'est dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Espagne, où une élection locale, celle de Castille et León, relance là-bas un débat qui nous est très familier. La droite traditionnelle doit-elle s'allier avec Vox, l'extrême droite? Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie a trouvé des indiennes qui réclament de porter le voile sans qu'on les ennuie, c'est au sud de l'Inde. Le Liechtenstein qui veut lancer des satellites, et un footballeur britannique très connu, évidemment vous verrez qui c'est, qui se met à nu dans un documentaire. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et ce sera Pierre Benazé. À 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Et l'hypothèse neutralité à la finlandaise pour l'Ukraine qui fait son chemin. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Manuel Valente.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Vous êtes directeur de recherche de CoinHouse. C'est pas la première fois qu'on essaye ensemble de comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. Je le disais, le Venezuela était une sorte de pionnier en 2018 à lancer même sa propre crypto-monnaie. On va y revenir. Ça s'appelle le pétro, gagé d'ailleurs sur les réserves de pétrole. Un jeton, un baril, c'est à peu près comme ça que ça fonctionnait. Vous nous direz si ça marche toujours. Mais depuis, le bitcoin est devenu monnaie quasi légale au Salvador, au Zimbabwe aussi, qui est sur ce chemin-là. Tout récemment, on a vu qu'au Liban, désormais un bitcoin ayant plus de valeur que la monnaie locale, c'est vers là que se tournent un certain nombre de gens. Donc la question, c'est est-ce que dans ces pays de crise et d'hyperinflation, avez-vous le sentiment que les crypto-monnaies sont en train de devenir des monnaies de secours réellement?
Tout à fait. On observe ce phénomène dans un certain nombre de pays, vous les avez cités, hein, le Liban, le Venezuela, le Zimbabwe. Et c'est surtout des phénomènes où les citoyens du pays essaient de fuir l'hyperinflation de leur monnaie. Quand vous avez votre monnaie qui est capable de perdre 90-95% de sa valeur en une très faible période de temps, eh bien les gens ils essaient de trouver des alternatives pour préserver leur pouvoir d'achat. Et là, aujourd'hui, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont aujourd'hui utilisées comme une garantie, comme un filet de sécurité par un nombre croissant de ces personnes pour éviter les problèmes d'inflation.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que on essaye d'investir pour essayer de préserver son argent, ou est-ce que vraiment ça sert au transactions, est-ce que ça diffère là pour le coup d'un pays à l'autre? Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'on est très loin de ce qu'était censé être la crypto-monnaie lorsqu'elle a été inventée.
Vous avez raison. Initialement, la crypto-monnaie, elle est inventée comme un moyen de paiement. C'est-à-dire quelque chose que je pourrais utiliser pour aller acheter ma baguette, etc., etc.
Mais qui était spéculatif aussi, quand même.
Au départ, non. Au départ, c'était vraiment dans l'objectif de créer une monnaie alternative, etc. Et comme vous dites, aujourd'hui, on assiste plus à des utilisations comme par exemple de réserve de valeur. On parle souvent de Bitcoin comme étant de l'or numérique pour pouvoir permettre aux gens d'éviter les problèmes d'inflation et de préserver vraiment, c'est ça, le pouvoir d'achat. Et de pas faire la dilution monétaire qu'on observe par ailleurs.
Mais alors, on va parler des dangers que ça peut représenter. Est-ce qu'on a déjà une petite forme de recul, même si c'est quand même très très neuf, y compris par exemple au Salvador? Dans la colonne des plus, on a bien compris ce qu'on y mettait, mais dans la colonne des moins, qu'est-ce qui se passe par exemple si les gens veulent subitement, et c'est en général ce qui se passe assez souvent, changer leur bitcoin contre des dollars, sonnant et trébuchant là pour le coup? Est-ce qu'un pays peut s'effondrer parce que, exactement comme les gens veulent aller récupérer leur argent dans une banque, là ils veulent transformer leur bitcoin? Donc est-ce qu'il y a un effet pervers qu'on voit déjà qui peut être très dangereux?
Alors pas pour l'instant. Dans l'ensemble de ces pays où on voit les gens qui s'y intéressent de plus en plus, en général vous avez suffisamment de liquidités pour que les gens puissent revenir en dollars ou en monnaie locale. Le marché est aujourd'hui suffisamment fluide et liquide pour pas avoir ce genre de problématique. Par contre, ça va clairement pas sans réticence et sans résistance. Vous avez parlé du Salvador où le gouvernement a décidé que le bitcoin aurait cours exactement comme une monnaie classique.
Et il l'a décidé contre sa population d'ailleurs, les gens sont assez réticents dans
l'ensemble. Exactement,
ouais.
Vous avez une majorité de la population qui est contre ce mouvement, qui qui se dit que effectivement se baser sur une monnaie qui est extrêmement volatile, et ça peut présenter tout un tas de problèmes, et qu'il y a eu des manifestations et même des violences contre l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale.
Et qu'est-ce que vous en dites, vous, qui êtes à fond dedans? Est-ce que vous dites oui, l'avenir est là, mais donc ça veut dire qu'il faudra réguler mieux pour éviter que le cours s'affole? Et encore une fois, quand on dit réguler mieux, j'ai l'impression encore une fois qu'on va à l'encontre de tout ce qui avait été mis sur le papier quand on a inventé le Bitcoin, qui était censé justement échapper à toute forme de régulation.
Alors, réguler le Bitcoin et surtout réguler le cours du Bitcoin, c'est quelque chose d'assez difficile. Ça revient à peu près à essayer de réguler le prix du pétrole. Et vous voyez aujourd'hui les problèmes que ce genre de choses peut causer. Parce que sur un marché, le Bitcoin, il va se comporter à peu près comme du pétrole, comme un métal. Encore une fois, cette notion d'or numérique. Donc, c'est difficile de garantir ou de maîtriser son cours. Après, la régulation, elle a surtout lieu sur tout ce qui va concerner l'authentification des gens qui font des transactions, le suivi des transactions pour éviter tout ce qui est les problèmes de blanchiment ou de terrorisme. Et donc ça, oui, les États, ils travaillent très clairement sur la question.
Parce que qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un narcotrafiquant au Salvador d'acheter tout un tas d'entreprises, de terrains, à les savoir et de blanchir absolument tranquillement tout son argent? Au moment où on se parle, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça dans un pays qui a désormais pris le Bitcoin comme sa monnaie de référence ou quasiment?
Alors, les mêmes principes, en fait, s'appliquent sur la crypto comme sur du dollar. Si vous avez quelqu'un qui arrive dans une banque en disant « Bonjour, je voudrais déposer 10 millions de dollars », on va forcément lui demander « Monsieur, il vient d'où cet argent ?» Donc, toutes les entreprises, notamment européennes et américaines, appliquent déjà ce principe, en anglais on appelle ça AML, pour Anti-Money Laundering, qui est ce principe de suivi de l'origine des fonds. Et notamment, la plupart des entreprises aujourd'hui n'accepteront pas des fonds en crypto si la personne ne peut pas en garantir l'origine.
Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, Manuel Valente? Parce que on parlait de volatilité tout à l'heure, et c'est bien le problème. Effectivement, il y a une volatilité qui est terrible. Je regardais les chiffres, octobre 2020, 10 000 dollars, c'est la valeur du Bitcoin. Avril 2021, 62 000 dollars. Aujourd'hui, on est à quoi? 30, un peu plus
45 000 dollars.
Voilà, 45 000. Donc, à un moment, la valeur de l'argent et donc ce que les gens savent qu'ils ont à disposition, ça devient quoi tout ça?
Alors effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de volatilité sur ce marché, mais clairement des gens dans ce genre de pays se disent que c'est plus supportable que la certitude d'avoir une monnaie qui se dévalorise très très fortement, leur monnaie locale. On peut citer par exemple également le cas de la Turquie, où vous avez la lire qui a dévissé très très fortement par rapport au dollar. Bon, si vous avez le choix entre le risque d'une monnaie volatile et la quasi-certitude d'une monnaie qui s'effondre, le choix est vite fait.
Enfin, en même temps, il y a aussi une quasi-certitude de volatilité du côté de la crypto-monnaie, non?
Mais sur le moyen long terme, pour l'instant, ça a toujours été un pari gagnant.
Est-ce que cette monnaie est universalisée, si j'ose dire, enfin si on l'utilise comme on l'utilise au Salvador ou au Zimbabwe ou dans d'autres pays, d'ailleurs on y viendra. Donc si de plus en plus de gens l'utilisent, si aussi on se dit pour certains que c'est facilement un argent facile puisque le cours peut parfois monter, etc. Est-ce que c'est pas là qu'on crée encore plus d'instabilité finalement, parce que se mettent à toucher à cette monnaie virtuelle un tas de gens qui ne sont ni aguerris à le faire, ni n'ont l'habitude de le faire, un peu comme si tout le monde se mettait à boursicoter dans tous les sens, et on a bien vu ce que ça donnait quand on boursicote dans tous les sens, c'est comme ça qu'on finit effectivement ruiné.
Alors en fait, ce qu'on observe, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que plus vous avez de gens et d'institutions qui commencent à s'intéresser et qui commencent à mettre des liquidités dans le marché de la crypto, plus vous avez de la stabilité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis l'année 2020, vous avez véritablement les acteurs institutionnels des fonds d'investissement, des agents de la bourse qui commencent à rentrer sur le marché des cryptos. Et du coup, ça stabilise pas mal les cours. Et du coup, sur le long terme, on peut se dire que ce marché va pouvoir être stabilisé par l'arrivée de ces acteurs institutionnels.
Ça veut dire qu'il y a un nouveau profil total des amateurs de crypto-monnaie. Est-ce que ça veut dire même que ceux du début se mettent à les déserter parce que c'est plus l'idée? Est-ce qu'on est vraiment passé à tout à fait autre chose?
On est vraiment passé à autre chose. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 43% de toutes les transactions qui ont lieu sur les marchés crypto aujourd'hui se font aux heures d'ouverture de la bourse américaine. Donc ça montre bien que ces acteurs, ils sont vraiment rentrés de plein pied sur ce marché, qui voient une opportunité, bien entendu, en termes d'investissement. Et ces acteurs, en général, ils vont avoir tendance à lisser les points les plus hauts, les points les plus bas du marché et de réduire la volatilité.
On parle du Bitcoin, Manuel Valente, mais des crypto-monnaies, il y en a plein, en fait. Est-ce qu'elles finissent par se concurrencer les unes les autres très fortement? Est-ce qu'on sait, nous, où il faut effectivement échanger et mettre son argent? Comment ça se passe dans cette... Est-ce que ça devient un peu une jungle, tout ça?
Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, on trouve à peu près 8000 crypto-monnaies sur le marché. Et comme vous dites, elles auront tendance à se phagocyter, elles auront tendance à avoir des clones de monnaies qui font à peu près toutes la même chose. Alors c'est un marché, c'est, comme vous imaginez, un environnement de start-up, avec certaines qui réussiront à s'imposer, d'autres qui disparaîtront. Alors la question qui se pose, vous avez raison, c'est comment est-ce qu'on fait la distinction entre elles? Alors oui. Vous avez bien entendu des acteurs professionnels tels que CoinHouse qui peuvent donner des conseils à leurs clients et mettre en avant celles qui, bien entendu, nous semblent les plus intéressantes.
Et à nouveau, j'ai l'impression que le mot régulation revient, en fait. Comment on fait pour réguler? À un moment, il faudra bien quoi, on jette le bon grain de livret, non? Pour éviter que les gens se jettent sur des choses qui n'ont pas de sens, ou qu'est-ce qui se passe?
Nous, en tout cas, on a fait le choix d'avoir un nombre relativement réduit de crypto-monnaies sur notre plateforme, celles où véritablement on croit qu'il y a une véritable technologie derrière, qu'elles ont un intérêt, qu'elles seront là encore là dans 4 ou 5 ans. Après, les gens, certains préféreront faire des paris un peu plus, comment dire, comme si on était un peu au casino,
au
malheureusement.
Jeu, ouais.
Nous, on conseillera toujours de partir sur des crypto-monnaies qui ont une stabilité et qui ont un véritable intérêt technologique.
Mais on a l'impression avec le temps qu'au fond, les crypto-monnaies sont en train de s'installer exactement, en fait, souvent exactement les mêmes modèles que l'argent sonnant et trébuchant, y compris que le bitcoin est devenu pour les crypto-monnaies ce que le dollar est en monnaie, justement, donc une espèce de référence et d'index. Donc à la fin, est-ce qu'on n'est pas en train de créer exactement la même chose, certes en virtuel, mais exactement la même chose?
Alors, effectivement, le Bitcoin est aujourd'hui la base de l'ensemble du système.
C'est l'index, donc on est indexé sur le Bitcoin comme on est indexé sur le dollar, en fait.
Tout à fait. Mmh. La plupart du temps, lorsque vous avez le Bitcoin qui augmente, vous avez l'ensemble du marché qui suit, et inversement. C'est des choses que vous avez raison, c'est des marchés qui existent de la même façon que par ailleurs. On suit tout un ensemble de logiques qui existent dans des marchés traditionnels, et c'est pour ça d'ailleurs que le vocabulaire et les raisonnements sont souvent appliqués sur ces marchés, exactement comme les marchés traditionnels.
On a parlé du pétro tout à l'heure au Venezuela, qui avait été inventé par le Venezuela. D'abord, est-ce que ça existe encore aujourd'hui, et est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça a fonctionné, cette idée?
Pas du tout.
Voilà, c'était le sens de ma question. Ça a été un flop total.
Un effet d'annonce qui n'a jamais été suivi d'effet.
Donc ça veut dire que ça n'a jamais existé du tout. Ça n'a même pas, il y a même pas eu de tentative. Je vous pose la question parce que l'Estonie a essayé. En tout cas, il y a eu des velléités, on va dire. La Chine a imaginé aussi avoir une crypto-monnaie qui lui serait propre. La Russie l'a fait, le Japon l'a fait, et personne ne s'arrête au final. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas dans cette idée? Qu'est-ce qui est séduisant pour certains pays à un moment et qui fait qu'ils reviennent en arrière?
Alors, la Chine, ça marche.
Ah, ça marche, pardon.
En Chine, vous avez d'ores et déjà des distributeurs avec le yuan, qui est la monnaie que l'État a créée. Vous avez des gens dont le salaire est payé en yuan, vous avez beaucoup de commerçants qui l'acceptent, et ainsi de suite. Alors, les États, aujourd'hui, et les banques centrales, se tournent vers un type de crypto-monnaie qu'on appelle des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le cours est fixe par rapport à une monnaie classique, comme le dollar, l'euro ou le yuan.
Donc c'est exactement comme la monnaie normale, en fait, au fond, si ce n'est que c'est pas un billet, mais on parle d'exactement de la même chose, ou
oui.
On parle vraiment d'une... Pour le coup, pour moi, ça fait pas crypto-monnaie, là.
Mais... Alors, l'avantage, c'est que vous avez une monnaie qui garde la même stabilité, le même cours que la monnaie classique, mais qui est gérée technologiquement complètement différemment, puisqu'on est sur le mécanisme d'une blockchain, qui permet du coup d'avoir une bien meilleure sécurité qu'une monnaie fiduciaire classique. Voilà pourquoi beaucoup d'États et beaucoup de banques centrales s'intéressent à la question, et l'Europe ne fait pas exception à la règle. On prévoit peut-être d'avoir un euro crypto à partir de 2026.
Et là aussi, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est dans un état d'esprit qui est totalement différent de ce qui avait été inventé au moment des crypto-monnaies. Même des gens peut-être qui doivent dire que tout cela a été dévoyé. L'idée, c'était totalement non étatique. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle. Je pense même que ça pouvait être assez terrible. Mais l'idée, c'était totalement non étatique. Et là, je vous écoute et je me rends compte que tout est en train de se mettre dans des cases qui sont de vraies cases telles qu'on les connaît, telles qu'on les maîtrise en matière de d'argent et de monnaie, en fait.
Oui, vous avez tout un ensemble de schémas qui sont reproduits et qui nous font retomber dans des choses que l'on connaît par ailleurs. Vous savez, ça ressemble un peu à l'Internet. Mm-hmm. C'est-à-dire, au départ, il y avait un peu cette notion de l'Internet, c'est une zone de l'endroit où il peut se passer n'importe quoi, etc. Et puis, peu à peu, mm-hmm. vous avez eu des usages de plus en plus divers, de plus en plus intéressants. Aujourd'hui, vous avez chaque État qui est présent même sur Internet. Donc, c'est à peu près le même principe. On applique la technologie et on l'utilise pour ce qu'elle a d'utile.
Pourquoi le Libra de Zuckerberg, et ce sera la dernière question, Emmanuel Valente, mais puisque je vous tiens, pourquoi le Libra de Zuckerberg a complètement échoué, la fameuse monnaie qu'il inventait, la monnaie de Facebook?
Alors au départ, c'était très très mal parti, ouais. Puisque ce que voulait créer Facebook, c'était une monnaie qui était basée sur un panier de devises, mmh. et ça n'a pas plu du tout à l'État américain. On retombe encore, vous voyez, sur cette problématique de la souveraineté et du contrôle d'une véritable monnaie. Alors Facebook est revenu sur son projet initial en disant que le Libra serait basé uniquement sur le dollar américain, mais il y a eu tellement de mauvaise presse et c'est parti tellement sur un mauvais pied que tous les partenaires sont partis les uns après les autres et au final le projet a juste échoué.
Et sinon, est-ce qu'il y a un retour en arrière? Je veux dire, par exemple, je pense au Salvador ou au Liban par exemple, qui effectivement sont en train de travailler beaucoup autour des crypto-monnaies et on sait pourquoi, parce qu'ils sont en état d'hyperinflation et de très grande crise, mais quand les choses seront stabilisées, on revient finalement à la monnaie, si je puis dire, ou est-ce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, selon vous, c'est fini? Ça signe aussi la disparition intégrale de la monnaie sonnante et trébuchante?
Alors, ça dépend des pays. Je regardais une statistique intéressante. Les trois pays où les gens déclarent le plus utiliser les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est le Nigeria, la Thaïlande et les Philippines. Donc, vraiment des pays où on s'y attend pas. Je pense que dans l'exemple du Salvador, eux, ils sont carrément vraiment partis pour véritablement bitcoiniser leur économie, notamment pour résister à la dollarisation de leur économie. Donc, à voir si cette expérience réussit à prendre. Si elle réussit à prendre, ça pourrait donner des idées à d'autres pays.
Eh ben, ce sera un laboratoire. Vous aurez l'occasion de revenir nous en parler, Emmanuel Valente. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Espagne, c'est le bruit du monde avec des élections locales, des élections régionales scrutées par une bonne partie du pays parce qu'elles soulèvent une problématique qu'on connaît bien, nous aussi en France. Est-ce que la droite traditionnelle va s'allier à Vox, l'extrême droite? La troupe habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
On ira en Angleterre avec les confessions télévisées de Wayne Rooney, ce joueur de foot emblématique et très tourmenté.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Pierre Benazé, bonsoir depuis Bruxelles.
Je vais vous parler de la Russie qui relance le projet européen à son corps défendant, enfin une partie du projet européen, l'Europe de la défense, une des grandes priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, une relance qui touche aussi plein fouet la voisine, l'OTAN.
Le monde d'après, Jean-Marc Faure, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous, on va examiner ce concept de neutralité à la finlandaise appliqué à l'Ukraine. Officiellement, c'est tabou, hein, mais on peut le faire sans le dire.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni avec le génial Damon Albarn, Royal Morning Blues sur France Inter. À tout de suite.
at the end of the world. Stay by my side.
Le bruit du monde ce soir est en Espagne avec une élection locale qui, vous allez le voir, nous ramène à nos préoccupations électorales. À nous et surtout secoue une bonne partie de l'Espagne. On vote donc en Castille y León, c'est au nord de Madrid, élection anticipée. Le président de la région, issu de la droite, gouvernait jusque-là avec les centristes, ce qui sera moins évident cette fois pour atteindre la majorité nécessaire. La question donc, faut-il s'allier avec l'extrême droite, avec Vox? C'est tout l'enjeu en Castille y León et le reste c'est Mathieu de Taillac qui raconte.
Ce sont des élections régionales, mais tous les dirigeants nationaux y participent, en particulier à droite. Dans chaque capitale de province, l'équivalent des départements français, le président de région sortant, Alfonso Fernández Mañueco, est accompagné par les grandes figures de sa formation, le Parti Populaire, le PP. Exemple, à Ávila, le président du PP, Pablo Casado, consacrait quelques minutes à parler, sans le nommer, de Vox, le parti d'extrême droite en pleine croissance, qui empiète sur l'électorat du PP dans une région rurale et conservatrice. Pablo Casado présente Vox en partie anti-région, anti Europe et anti-politique agricole commune.
Nous sommes un parti qui défend la régionalisation. Si tu n'aimes pas les régions, ne te présente pas aux élections régionales. Nous croyons en l'Union européenne. Nous ne comprenons pas qu'il y ait des partis qui ne défendent pas l'Union européenne et devons expliquer aux agriculteurs et aux éleveurs comment on ferait sans la PAC.
Réponse de Santiago Abascal, le président de Vox, lors d'un meeting à Palencia vendredi dernier.
En Europe, le Parti populaire européen et le Parti socialiste votent pareil. Et si on n'est pas d'accord avec eux, vous avez vu ce qu'ils nous disent ? Vous êtes contre la PAC. On n'a jamais dit ça, mais ils n'ont que le mensonge pour justifier leurs alliances. Vous êtes europhobe. Pourquoi ? On n'a jamais dit qu'on voulait sortir de l'Union européenne.
Il y a des observateurs, mais ils sont minoritaires, qui aimeraient que l'on tire les conclusions de cet affrontement. Pedro J. Ramírez, jadis directeur très influent d'El Mundo, aujourd'hui à la tête d'Elespagnol.com, est l'un des seuls au centre droit à avoir réclamé un cordon sanitaire dans un éditorial.
Ce qui me semble scandaleux, c'est que le leader d'un parti démocratique et européen, Pablo Casado, n'ait pas tracé une fois pour toutes une ligne rouge pour écarter tout gouvernement de coalition avec Vox. Vox n'est pas un parti comme les autres. Mieux vaut clarifier aujourd'hui les choses en Castille et León que d'affronter demain des élections législatives avec le risque que voter PP suppose d'inviter l'extrême droite dans le gouvernement espagnol.
Éditorial accueilli par une volée de bois vert par les partisans de Vox sur les réseaux sociaux et les militants sur le terrain. Retour au meeting de Palencia. Santiago, dans le public de la Plaza Mayor, ne voit pas le PP en adversaire.
En théorie, Vox et le PP sont issus du même parti et ils devraient se défendre. L'idéal, ce serait que Vox participe au gouvernement régional et sinon qu'il soit assez fort pour obliger le PP à respecter certains engagements.
Au-delà des militants très proches de ceux du PP, l'appareil de Vox, lui aussi, fait la différence entre les discours de campagne, qui soulignent les singularités, et les réalités politiques. Bertrand Dongo est conseiller d'une élue régionale de Vox.
Avec le PP, on a l'obligation en fait de s'entendre, parce qu'en fait, ce sont deux partis de droite. On est condamné à s'entendre pour l'Espagne, en fait. Alors, si on n'a pas de majorité absolue, en fait, on est obligé de s'asseoir avec eux. Notre intention, c'est ça, c'est aller avec eux pour changer un certain nombre de choses ici à Castilla y León. Mais nous n'allons pas donner nos votes gratuitement aux partis populaires pour qu'ils continuent avec la politique socialiste qu'ils sont en train de faire depuis un certain temps.
Personne ne doute, ni chez Vox ni au PP, que si le gouvernement régional de Castille et León en dépend, les deux partis sauront trouver un accord. Ils le font déjà dans d'autres régions, mais jusqu'à présent sans que Vox n'ait de ministres régionaux. Cristina Monge, politologue à l'Université de Saragosse.
Jusqu'à présent, Vox a suivi une stratégie, ne pas s'impliquer dans les gouvernements régionaux, ne pas s'impliquer dans la gestion. Ils exercent leur influence sur les politiques, sur les sujets qu'ils considèrent clés. L'immigration, la violence machiste à travers le vote du budget ou de lois stratégiques. Ça leur a permis de présenter un profil anti-système, un caractère authentique. S'ils participent au gouvernement de Castille et León aux côtés du PP, ils peuvent donner une image de parti capable de gouverner, mais cela entraîne aussi d'énormes risques.
Pour le PP, la difficulté est différente.
Le plus grand danger pour le Parti populaire, et on le voit dans l'évolution de cette campagne en Castille et León, c'est qu'à force de se rapprocher du profil de Vox, les électeurs finissent par choisir l'original plutôt que la copie.
Pour le Parti populaire, pour Castille et León, et que nous nous movamos pour Espagne. A ganar. Muchas gracias.
La question semble tranchée au PP, les débats internes existent, mais les personnalités hostiles à un rapprochement avec l'extrême droite sont discrètes. Elles ne sortiront du bois qu'en cas d'échec du pas de deux entre PP et Vox.
Mathieu de Taillac pour le reportage. Merci beaucoup Mathieu, le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale. Passez sous les radars et c'est Sébastien Legénie. On y était hier précisément en pile, dans Un jour dans le monde. Nous sommes en Inde, dans le sud du pays, secoué depuis plusieurs jours par des manifestations d'étudiantes musulmanes.
Oui, des jeunes filles voilées qui protestent pour préserver leur droit à porter le hijab. La polémique ne cesse d'enfler en Inde, où la minorité musulmane est régulièrement l'objet de discrimination de la part des nationalistes hindous du BJP au pouvoir. On en parle effectivement hier. Dernière discrimination en date, depuis le mois de décembre, au Karnataka, cet état du sud indien dirigé par le BJP, et qui compte 13% de musulmans, plusieurs directeurs de lycées publics ont décidé d'interdire le foulard islamique en classe, alors qu'il était jusqu'ici autorisé, ce qui a immédiatement provoqué plusieurs manifestations de rue. Cette élève musulmane de 19 ans, voilée, accuse le gouvernement d'être islamophobe, dit-elle. Il essaye de nier notre droit. Nous voulons notre liberté. Nous nous battrons pour cela jusqu'à la mort. C'est notre droit en tant que citoyen. Depuis ces manifestations, l'atmosphère s'est singulièrement tendue au Karnataka, avec en face de ces étudiantes voilées, des étudiants garçons arborant des foulards orange, la couleur du BJP, le parti nationaliste hindou, des étudiants qui parfois tentent d'interdire l'entrée des lycées aux jeunes filles. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême du Karnataka. En attendant sa décision, quelques lycées ont fait machine arrière, mais en séparant les étudiantes voilées des autres élèves, d'autres lycées ont carrément fermé leurs portes pour 3 jours, le temps que la tension retombe.
Quand le petit état du Liechtenstein se lance dans la course à l'espace.
Oui, cette monarchie parlementaire d'à peine 38 000 habitants, Fabienne, est plus connue pour ses casinos et la souplesse de sa législation fiscale, mais la principauté mise désormais sur l'espace. Elle envisage de devenir l'un des acteurs incontournables du marché des satellites et ambitionne d'envoyer 300 satellites dans l'espace dans les 2 années qui viennent. Voilà, le sujet ne fait pas encore les gros titres au Liechtenstein, cantonné pour le moment à des émissions spécialisées sur la science comme on peut l'entendre ici. Pourtant, l'enjeu est de taille. Faire concurrence tout simplement à Starlink, la flotte de satellites qu'Elon Musk, l'américain, est en train de mettre en place. Sauf que ce projet fait déjà polémique au Liechtenstein, car comme on le sait, ce pays n'a pas d'industrie spatiale, pas de rampe de lancement de fusées. Et c'est donc avec la Chine que le pays va s'associer pour lancer ses satellites. Le Liechtenstein lui offre une fréquence radio très convoitée à la Chine, avec laquelle on peut communiquer entre la Terre et l'espace. La plupart de ces fréquences sont déjà attribuées et le petit Liechtenstein prévoyant en a acheté une de ces fréquences il y a près de 10 ans. Alors voilà pour l'alliance passée entre Pékin et Vaduz, la capitale. Une alliance qui inquiète toutefois certains Européens qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée du géant chinois en Europe sur un secteur aussi stratégique.
Allez, on termine avec les confessions d'un célèbre joueur de foot britannique.
J'ai nommé Wayne Rooney, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, mais aussi de la sélection anglaise. Demain, Amazon Prime va dévoiler un documentaire sur la vie de ce joueur au parcours chaotique. Et à la veille de cette sortie très attendue outre-Manche, Wayne Rooney était hier sur la BBC. Il revient sur les moments les plus sombres de sa carrière.
10-15 years ago, you couldn't...
Il y a 10-15 ans, raconte Rooney, je ne pouvais pas dire dans un vestiaire « je me bats avec l'alcool, je me bats avec mes problèmes de santé mentale ». De quoi aviez-vous peur? Alors à ce moment-là, lui demande l'intervieweuse. Probablement de la mort, répond-il. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec les femmes, en conduisant après avoir bu. J'aurais pu tuer quelqu'un, je pense, ou me tuer. C'était une très mauvaise période de ma vie. Voilà, Rooney fait le choix d'une transparence totale. Il n'hésite pas non plus à révéler quelques anecdotes footballistiques. Il a par exemple changé ses crampons en 2006 au moment d'affronter Chelsea et il retourne ensuite sur le terrain avec la ferme intention de blesser l'un de ses adversaires, un vrai bad boy, un mauvais garçon qui joue la carte de la rédemption télévisuelle à l'américaine à 36 ans. Il s'est calmé avec la boisson Wayne Rooney. Il est actuellement l'entraîneur de Derby County, simple club de deuxième division anglaise.
Merci beaucoup Sébastien Legénie. À demain, bien sûr, non pas demain, à lundi.
Tiens, à lundi.
Allez. La suite c'est Marianne Faithfull dans Un jour dans le monde, Working Class Hero. Sur France Inter.
À ce...
soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Working Class Hero de Marianne Faithfull sur France Inter. Allez, direction Bruxelles où nous attend Pierre Benazé.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Ce soir, on se plonge dans la tourmente aux marches de l'Europe avec vous, Pierre. On a bien compris ces derniers jours que la tourmente provoquée par le renforcement des troupes russes autour de l'Ukraine est en train de contribuer à remettre l'Europe sur les rails.
Oui, effectivement, c'est la grande avancée que Vladimir Poutine a réussi à contribuer au projet européen. On avait largement entendu ses critiques sur l'absence de l'Europe dans le jeu diplomatique au moment où Joe Biden a décidé d'impliquer les États-Unis dans la crise ukrainienne et de mener les contacts avec le Kremlin. Mais la situation a changé du tout au tout puisque désormais les Européens mènent le jeu. On a vu le balai diplomatique des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Moscou, en particulier les déplacements prévus d'Olaf Scholz, Emmanuel Macron, qui revient de Kiev et Moscou. Avec la France et l'Allemagne, le fameux format Normandie, comme on l'appelle, fait son retour sur les devants de la scène. Mais la crise ukrainienne donne surtout une impulsion supplémentaire à la vraie arlésienne européenne, l'Europe de la défense.
Alors justement, l'Europe de la défense, Pierre, la France l'a placée dans les priorités de sa présidence du Conseil de l'UE.
Oui, l'ambition de cette présidence française, c'est de faire aboutir le grand projet du moment, c'est-à-dire la boussole stratégique. Il y a eu là aussi d'importantes critiques, en particulier sur la dernière idée. À l'automne, c'était créer une force dite de première entrée, 5000 Européens, 5000 soldats déployables en urgence, une force dont certains craignaient qu'à nouveau elle reste un vœu pieux. Mais l'élaboration de cette boussole, qui doit axer la stratégie géopolitique et de sécurité de l'Union, est en passe d'aboutir, car la crise ukrainienne mobilise désormais toutes les capitales.
Et c'est là qu'on arrive à l'OTAN, Pierre, parce que cette crise est en grande partie militaire et c'est plutôt le rôle de l'Alliance Atlantique.
Alors, les 27 ont toujours dit que l'Europe de la défense, ça devait s'articuler avec l'OTAN, d'autant que 23 pays de l'Union font partie de l'Alliance. Face à la Russie, l'Alliance Atlantique préconise depuis 10 ans, depuis la Crimée, en gros, deux grands axes, dissuasion et dialogue. Très clairement, le dialogue, maintenant, c'est uniquement l'Europe qui s'en charge. Il reste juste à l'OTAN l'outil de la dissuasion. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, qui évoquait tout à l'heure le renforcement des forces alliées sur son flanc est.
Premièrement, nous avons déjà accru notre présence dans la partie orientale de l'Alliance. Deuxièmement, nous avons relevé le niveau d'alerte des troupes de manière à renforcer rapidement si nécessaire. Troisièmement, nous étudions aussi en ce moment la nécessité de changer pour le long terme notre posture dans la partie orientale de l'Alliance. Aujourd'hui, nous avons des groupements de combat dans les pays baltes et en Pologne. Mais nous envisageons maintenant d'avoir des groupements de combat similaires dans la région de la mer Noire, par exemple en Roumanie.
Et d'ailleurs, on ne va pas l'entendre évoquer ce sujet pendant très longtemps, puisque il va quitter la tête de l'OTAN, Pierre, ce qui devrait remettre les projecteurs encore une fois sur l'Union européenne.
Oui, il s'en va, Jens Stoltenberg, il doit prendre la tête de la Banque de Norvège à la fin de son mandat à l'OTAN, le 1er octobre. Et les rênes de l'Alliance, c'est vrai, ont des chances de revenir à une européenne, parce que, mis à part le nom de l'ancienne première ministre belge Sophie Wilmès qui a été suggérée, deux anciennes présidentes baltes seraient les mieux placées pour lui succéder. Il y aurait d'une part l'estonienne Kersti Kaljulaid et d'autre part la lituanienne Dalia Grybauskaitė. Elles ont pour elles d'avoir exercé la magistrature suprême, mais aussi d'être des femmes et de venir de pays frontaliers de la Russie. En revanche, l'arrivée à la tête de l'OTAN d'une secrétaire générale venant d'une ancienne république soviétique, désormais dans l'Alliance et l'UE, pourrait bien donner de l'urticaire au Kremlin.
Pierre Benazet avec nous depuis Bruxelles, merci beaucoup.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Jean-Marc, les négociations continuent autour de l'Ukraine, cette fois donc à Berlin, cet après-midi dans le format dit Normandie, avec la France, l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine. Depuis quelques jours, un mot revient, celui de finlandisation. Le mot suscite des réactions vives et beaucoup de critiques, mais pour vous, le concept n'est pas absurde et c'est votre monde d'après.
Ce mot, finlandisation, il a été prononcé par Emmanuel Macron lors d'une discussion off avec des journalistes dans l'avion qu'il conduisait à Moscou en début de semaine. Et il a déclenché de telle réaction que l'Élysée a dû rétro-pédaler et préciser officiellement, je cite, qu'il n'est pas question d'une finlandisation de l'Ukraine. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi une telle tempête ? Le mot a été prononcé pour la première fois il y a 60 ans par des diplomates allemands, Finlandisierung. Il s'agissait de qualifier la position politique très particulière de la Finlande au nord de l'Europe, le choix fait par ce pays, après la Seconde Guerre mondiale et pendant toute la guerre froide, d'adopter une forme de neutralité vis-à-vis de la Russie, ni à l'ouest, ni à l'est. Seulement voilà, ce concept n'a pas laissé de bons souvenirs dans le pays. C'était une neutralité contrainte pour ménager Moscou avec de l'autocensure, un renoncement à critiquer les positions diplomatiques russes, un choix subi, incarnation d'un manque de souveraineté, d'un diktat des grandes puissances pour ménager les équilibres. La réapparition de ce mot surgi du passé a donc suscité cette semaine des commentaires courroucés en Finlande et aussi en Ukraine. Le gouvernement de Kiev revendique la liberté de choisir son camp, ce qui s'entend parfaitement. Question là encore de souveraineté. Conclusion, finlandisation, terrain glissant, mot tabou, hop, on le remet dans sa culotte.
Mais pourtant, Jean-Marc, pour vous, c'est quand même l'idée à explorer.
Oui, parce que c'est quand même une forme de compromis. En gros, l'idée appliquée à l'Ukraine, ce serait quoi ? Là aussi, une forme de neutralité entre l'Est et l'Ouest. Une garantie de démocratie, un équilibre dans les choix commerciaux, pas de risque d'occupation russe, mais rien de plus. et peut-être un accord territorial qui laisserait la Crimée à la Russie, douloureux pour l'Ukraine. Ça peut apparaître comme une version 2022 des accords de Munich avec l'Allemagne nazie en 1938, une concession faite à Moscou, injuste au regard du droit, oui, mais pragmatique. Comme on dit dans les divorces, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Et en l'occurrence, c'est pas un procès que ça pourrait éviter, c'est une guerre. Et en plus, une guerre que les Occidentaux n'ont pas très envie de mener. Vladimir Poutine la conduirait avec sans doute moins d'état d'âme. Et puis, il suffit de regarder une carte. L'Ukraine, de fait, se trouve entre l'Est et l'Ouest du continent, dans une forme de continuité avec la Russie. Et dire ça, c'est pas s'aplatir devant Poutine, c'est juste faire un peu de géographie. Le seul autre pays comparable avec une frontière tout aussi immense avec la Russie, près de 1500 km, c'est la Finlande, on y revient. Renoncer à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça serait pas davantage baisser son pantalon. Il n'y a pas de procédure engagée, et Paris et Berlin s'y sont même opposés par le passé. Quand les enchères montent, le seul moyen pour éviter le conflit, c'est le compromis où personne ne se sent humilié en sortant. La finlandisation.
Alors, on fait comment, du coup, vu que le mot soulève une levée de bouclier,
Jean-Marc? Une option, c'est de le faire sans le dire. Petit tour de passe-passe diplomatique, on ne prononce plus le mot, il est trop irritatif, mais on défend peu ou prou le raisonnement. Il y a un écueil majeur à surmonter, ça ne peut marcher que si l'Ukraine elle-même s'approprie l'idée. Si elle est imposée de l'extérieur, elle est vouée à l'échec, elle sera vécue comme une ingérence. Et ça, c'est le plus compliqué, parce que l'agressivité de Poutine au Donbass, en Crimée, a radicalisé les Ukrainiens. Ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'hier à vouloir rejoindre l'Europe et l'OTAN. Donc est-ce que le pouvoir ukrainien est à même de réfréner les ardeurs de ses électeurs pour chercher un compromis qui serait quand même vécu comme un pacte avec le diable? Pas évident. Faire ce pari, ça serait aussi faire le pari de la patience, se dire que Poutine n'est pas éternel, que son successeur sera peut-être moins belliqueux. Mais ce pari du temps long, il est toujours difficile à faire pour les pouvoirs démocratiques, soumis, et c'est tant mieux, au retour régulier du verdict des urnes. En tout cas, on a du mal à croire que le mot « finlandisation » ait été lâché par erreur comme une boulette. Ça ressemble davantage à un ballon sonde. Officiellement, le mot va donc rester tabou, mais le concept a un parfum de réel politique, de porte de sortie. On ne l'a pas dit, mais on peut essayer de le faire.
Allez, Jean-Marc Fourré et Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Bien sûr, on reste ensemble le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant, il y a le journal de 19h, présenté par Hélène Philly. Merci de partager votre soirée avec la nôtre, ne changez rien.